Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et professeure de français en ligne chez EWI. Avec ce podcast, je vous aide à améliorer votre français dans un contexte réel et concret pour pouvoir parler, réagir et interagir comme un vrai français. Je vous souhaite un excellent moment et c'est parti avec EWI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un PDF que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Que vous ayez un niveau intermédiaire, débutant ou avancé, ce manuel vous aidera dans votre apprentissage du français. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet ewionline.com et vous recevrez une newsletter de qualité régulièrement qui vous aidera aussi dans votre apprentissage du français où je parle de culture, de grammaire, de vocabulaire, etc. ewionline.com. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus personnel parce que je vous ai donné la parole. Je vous ai dit, posez-moi les questions que vous voulez et j'y répondrai avec plaisir. Donc ici, il y a une dizaine de questions très intéressantes auxquelles j'essaierai de répondre le mieux possible. Alors déjà aussi, merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de m'écrire et de prendre le temps d'avoir écrit et de m'avoir envoyé vos questions. Alors, la première question, c'était donc une personne qui va déménager à Lyon l'année prochaine et avec son travail. Et cette personne dit que l'un des plus grands défis est de comprendre la langue utilisée par l'administration française. La langue qu'on pourrait utiliser pour louer une voiture, louer une maison, etc. Alors, c'est vrai que ça pourrait être un sujet d'épisode, de podcast très intéressant. Et je l'écris sur ma liste pour les prochaines idées de podcast. Mais ça prendrait trop de temps. Je peux pas prendre un épisode je peux pas prendre cet épisode pour expliquer tout ça parce que c'est un sujet qui est assez dense, mais je le note sur la liste. Donc merci beaucoup à la personne qui m'a écrit ce message. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu envisages de retourner définitivement en France et pourquoi ? Alors, bonne question. Moi, j'ai quitté la France, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai quitté la France il y a 10 ans, et donc en 2013, ça fait bientôt 11 ans maintenant, et au total, j'habite au Mexique, 7 ans au total, et entre-temps, j'ai habité 3 ans et demi aux États-Unis. Mon mari est mexicain, j'ai un enfant franco-mexicain, et ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Être à l'ordre du jour, ça signifie que ce n'est pas du tout dans les projets actuels. Depuis assez peu. Le retour, donc j'ai habité 5 ans au Mexique. Ensuite, avec mon mari et mon fils, nous sommes partis aux États-Unis. Et nous sommes retournés au Mexique, à Durango en particulier. Donc c'est la ville natale de mon mari. Et nous avons fait le choix d'y retourner parce que donc on a un enfant qui est fils unique et on voulait lui donner l'opportunité de grandir près, au moins près d'une famille, si c'est pas la française, que ce soit la mexicaine. Et ça a été extrêmement difficile pour moi le retour à Durango. Même si mon mari est mexicain, même si je connais bien le Mexique, même si j'y ai habité plusieurs années, avant de nous réinstaller à Durango en 2022, j'avais déjà habité à Durango combien d'années ? 3 ans. Donc ce n'est pas une ville que je connais bien cette ville, j'ai de très bons amis ici, mais le retour a été extrêmement compliqué pour moi parce que j'ai été habituée à un certain ordre aux États-Unis, à une certaine manière de penser, à une société qui est quand même très bien organisée, et le retour à Durango a été une sacrée claque dans la figure. Une claque, c'est quand on frappe quelqu'un sur la joue avec la main, c'est une claque. Donc, de manière métaphorique, une claque, c'est-à-dire que ça a été très violent, ça a été un gros choc. Et c'est là que je me dis, waouh, est-ce que je vais pouvoir me réhabituer, est-ce que je vais pouvoir me réadapter ? Et c'est là où je me dis, ah ben, pourquoi pas le retour en France ? Et donc là, ça va quand même beaucoup mieux. Ça va faire quasiment 2 ans. Ça va beaucoup mieux. Ça a été très difficile, mais ça va mieux. Et Depuis peu, je me dis, ben, mon fils a 6 ans et malheureusement, il ne parle pas français. Il comprend bien le français, mais il refuse de le parler parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et c'est quelque chose qui me frustre un petit peu parce que, ben, je veux que mon fils soit français. Il est moitié mexicain, moitié français. Il a déjà 6 ans et je me dis, pour moi, la seule manière, pour lui de vraiment développer son identité française, c'est de vivre en France. C'est pas en étant au Mexique et en allant en France une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans parce que les billets d'avion sont chers. Ce n'est pas en y allant juste pour quelques semaines en été que mon fils va avoir l'opportunité de bien connaître sa famille française et d'être français. Donc, on se dit que dans plusieurs années, dans 4 ou 5 ans, on pense peut-être nous installer pour quelques années en France pour mon fils. Pour mon fils, tout simplement, pour qu'il puisse bien connaître le système français et pour qu'à l'âge de 18 ans, parce que pour nous, dans notre culture française, 18 ans, la majorité, c'est très important. À partir de 18 ans, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte est libre et donc mon fils fera ce qu'il voudra à 18 ans. S'il veut rester au Mexique, il restera au Mexique. S'il veut étudier en Europe, ou, bref. Donc, pour moi, c'est vraiment lui offrir le choix de connaître très très bien ces deux cultures. Et puis, si dans quelques années on se réinstalle en France, il passera de toute façon tous ses étés au Mexique avec ses grands-parents, avec mon mari, etc. Donc oui, effectivement, un retour définitif en France est envisagé dans quelques années. Alors après, définitive non, parce que moi je suis nomade et mon mari aussi. On aime énormément bouger et moi, penser que je vais rester toute ma vie quelque part, c'est pas possible. Ça me déprime. J'aime trop bouger. J'ai énormément bougé depuis que je suis jeune adulte. Donc pour moi, c'est inenvisageable de me dire que je vais rester à un seul endroit le reste de ma vie. Pour moi, l'idéal quand mon fils sera majeur, ce serait de passer 6 mois de l'année au Mexique et 6 mois de l'année en France, parce que je réalise que je ne suis plus 100% française, mais je ne suis pas non plus, je ne serai jamais non plus 100% mexicaine. Et ça, je sais que c'est le comment dire les gens, les personnes qui ont voyagé, qui ont habité dans plusieurs pays, je pense, comprennent ça. Mais pour moi, ce serait l'idéal, même maintenant. Mais malheureusement, notre fils a besoin d'une stabilité avec l'école, les amis, etc. Donc, c'est pas envisageable. Mais pour moi, si ça ne tenait qu'à moi. Ça signifie que s'il n'y avait que moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais vraiment passer la moitié de l'année en France et la moitié de l'année au Mexique. L'hiver de la France, le passer au Mexique, et donc l'été du Mexique, quand il fait trop chaud, aller en France. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Ensuite, Virginie, alors ça, j'aime bien ce message, c'est très spécifique. Raconte-nous des histoires de tes expériences au camping. Où, avec qui, et si tu t'es bien amusée. Raconte les détails. Merci en avance. Alors, moi, donc le camping, c'est effectivement une option intéressante. Beaucoup, beaucoup de Français font du camping parce que c'est l'option la plus abordable, la moins chère pour pouvoir passer des vacances en France. Les hôtels, c'est très, très cher. Moi, j'ai fait un petit peu de camping quand j'étais jeune avec ma marraine. Avec ma marraine, j'avais quel âge? 7 ou 8 ans dans une petite caravane. Et c'était vraiment un camping, le camping pas cher. Le camping pas cher, je ne sais même pas s'il y avait une piscine, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait une piscine dans ce camping? Je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle que c'était une petite caravane des années 70. Et le seul souvenir pénible que j'avais, c'était que mon oncle ronflait. Mon oncle ronflait beaucoup, non, tous, mon cousin, ma marraine. Donc la mère de mon cousin et mon oncle ronflaient. Et je me rappelle que c'était vraiment horrible parce que ça m'empêchait de dormir. Et j'ai eu de très bons moments. Vraiment, le camping, c'est sympa. C'est surtout quand on est enfant, on peut dormir sous la tente, on peut dormir dans une caravane. Maintenant, c'est quand même l'option des mobile homes. Les mobile homes, c'est les maisons dans les campings. Et c'est quand même une bonne option, un peu plus confortable, bien sûr, plus chère. En parlant camping, si vous voulez faire du camping en France, en particulier pour un mobile home, il faut vraiment, vraiment réserver à l'avance. C'est-à-dire, si vous allez en été, vous devez réserver à partir de janvier-février. Parce que beaucoup de gens, les campings sont très populaires en France. Il y a beaucoup de gens qui réservent à l'avance. Mais voilà. Sinon, est-ce que j'ai eu d'autres? Oui, j'ai eu une expérience, une très bonne expérience de camping quand j'étais jeune adolescente, quand j'avais 15 ans, avec une copine et ses parents. On avait loué un mobile home, donc très confortable. On est resté une dizaine de jours et je me suis fait de très très bons copains. Après, c'était des amis de vacances, hein, mais j'ai passé de très très bons moments en camping. Il y avait des piscines, il y avait des activités. Attention, le camping, ça peut être un peu, surtout si c'est des campings municipaux, donc municipaux, c'est-à-dire gérés par la ville, donc c'est beaucoup moins cher, ça peut être un peu plouc. Alors, plouc, c'est le mot péjoratif pour dire redneck. Ça peut être un peu plouc, les campings. Par exemple, le soir, quand il y a des karaokés, des soirées, par exemple, de Miss Camping, etc. Ça, personnellement, c'est pas trop mon type de vacances, mais ça peut vraiment être une bonne option quand on veut voyager pour pas cher. Mais après, ça dépend des campings. Mon oncle et ma tante ont acheté un mobile home il y a 2 ou 3 ans dans un camping. Donc c'est pas un camping municipal, c'est un meilleur camping et c'est vraiment super pour avoir un pied-à-terre. Par exemple, ils ont acheté un mobile home en Bretagne. Donc, on est à 5 minutes à pied de la mer. Donc, le mobile home, le fait d'acheter un mobile home permet d'avoir un pied-à-terre quelque part et permet aussi de recevoir des amis, des cousins, etc. Donc, c'est très convivial. Beaucoup de personnes âgées achètent des mobile homes pour pouvoir recevoir les petits-enfants, pour recevoir la famille en vacances près de la mer. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super. Par contre, les mobile homes, ça peut être quand il pleut, ça peut être humide, donc parfois il fait un peu froid. Mais en tout cas, camping génial. Ensuite, petit message de Magnus. Bonjour Virginie, je n'ai pas de questions spécifiques, mais je voudrais dire que j'apprécie beaucoup votre vlog. C'est amusant, toujours intéressant, et on sait que vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup, Magnus. Je ne sais pas si je prononce bien votre prénom. Merci beaucoup. Ensuite, autre question. Salut Virginie, je vous remercie de l'opportunité de vous poser une question. Je suis argentin et professeur d'anglais en Italie. J'habite ici depuis presque 19 ans et je n'ai jamais réussi à trouver de personne pour faire une amitié proche, donc pour lier d'amitié. Comment est-ce que vous vous y prenez pour vous adapter aux différences culturelles et trouver de nouveaux amis dans un pays avec de grosses différences sociales et culturelles? Alors, bonne question de Carlos. Merci Carlos. Alors, j'ai habité dans plusieurs pays, à savoir donc le Mexique, les États-Unis, l'Angleterre et l'Inde. Bien sûr que le Mexique, je connais beaucoup mieux parce que c'est le pays où je suis restée le plus longtemps et je suis mariée avec un Mexicain. Mais même avant ça, j'ai connu mon mari au bout de 2 ans. Le Mexique a été, c'est la culture latine qui, c'est le jour et la nuit, vraiment. Aux États-Unis, ça a été très difficile. Après aussi, aux États-Unis, j'étais en pleine pandémie, mais il y avait quand même un fossé par rapport à la langue qui était compliqué. C'est difficile de lier d'amitié. En Angleterre, j'ai ressenti la même chose. En Angleterre, même si j'étais étudiante, j'avais une vingtaine d'années. J'ai trouvé très dur de me lier d'amitié avec les Anglais. Et en Inde, j'étais en échange. Je faisais un stage. Et les deux Indiennes avec qui je me suis vraiment liée d'amitié, les deux parlaient très très bien le français. Donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense que ça dépend tout à fait du pays où on habite. Ce qui est super important, si on n'a pas l'opportunité, par exemple, de rencontrer des gens au travail, c'est de trouver des événements, par exemple des meet-up. Les meet-up, c'est un site internet où on peut voir des événements qui sont organisés dans la ville où on habite avec des gens différents. Je pense que ça, trouver des gens avec les mêmes centres d'intérêt peuvent vraiment, vraiment aider. La langue, parler la langue, ça c'est évident que quand on parle la langue, ça aide beaucoup pour à mieux comprendre et à mieux, plus lier d'amitié. Mais c'est vrai que il n'y a pas forcément de solution miracle. Et je pense que c'est aussi un feeling qu'on peut avoir avec une culture. Moi, j'ai eu le feeling tout de suite avec les Mexicains, parce que c'est des gens qui sont extrêmement accueillants et chaleureux. Et je sais très très bien, enfin, je n'ai pas du tout ressenti la même chose aux États-Unis, où ça reste quand même compliqué d'avoir. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas impossible, mais ça prend plus de temps. Il y a aussi peut-être plus d'incompréhension. Moi, j'ai eu plus d'incompréhension par rapport à la culture aux États-Unis qu'au Mexique. Au Mexique, je comprends plus les références, je comprends plus leur manière de penser et de faire, alors qu'aux États-Unis, il y avait quand même beaucoup plus d'incompréhension par rapport à la politique en particulier, qui fait que ça bloque énormément. Voilà. Mais moi, je dirais, s'il n'y a pas la possibilité de rencontrer des gens par rapport au travail, aller dans une association, par exemple, j'avais moi comme objectif, si j'étais restée plus longtemps aux États-Unis, d'aller aider dans une association pour de protection pour les animaux. Moi, la cause animale est une cause importante pour moi, et je sais que si j'étais restée plus longtemps, j'aurais été dans une association pour aider, par exemple, à aller passer du temps avec les chiens, les sortir, etc. C'est ce que j'aurais fait. Se rapprocher d'une association ou essayer de voir s'il y a des événements qui sont organisés dans la ville avec des choses qui peuvent t'intéresser, qui peuvent nous intéresser. Et voilà, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Ensuite, autre question. Bonjour Virginie, voici quelques questions. Donc première, quelle méthode utilisez-vous pour impliquer les étudiants de niveau intermédiaire qui peuvent s'ennuyer ou être démotivés par les cours traditionnels? Waouh, bonne question. Quelle méthode au pluriel? Moi déjà, cours de groupe, ça peut être compliqué parce que on n'a pas forcément le même niveau que les autres. Et moi, j'ai travaillé pendant des années dans des écoles de langue, et c'est vrai que le programme n'est pas forcément intéressant. Il faut suivre absolument le manuel, il faut suivre les chapitres, il faut suivre les thèmes qui sont abordés. Et franchement, parfois, waouh, c'est chiant. C'est chiant, c'est de l'argot pour dire c'est pénible, c'est ennuyant. Comment garder les élèves motivés? Donc moi, déjà, mes cours particuliers sont extrêmement dynamiques. Extrêmement dynamiques. Donc, l'élève n'a pas le temps de s'ennuyer. J'essaie toujours, toujours, je connais très bien mes élèves. Donc, ouais, j'ai des élèves quand même depuis 3 ou 4 ans, les mêmes élèves. Donc, je les connais assez bien. Je sais ce qui les intéresse. Je sais ce qui ne les intéresserait pas. Et donc, ça permet enfin, l'élève reste motivé parce qu'il sait très bien que quand l'élève va se connecter avec moi, l'élève sait que ça va être intéressant et qu'on va passer un bon moment. Donc, même si parfois l'élève peut être fatigué ou même moi avoir un peu moins d'énergie parce qu'on n'est pas parfait, ça reste quand même quelque chose de très motivant par rapport à ça. C'est le cours particulier, je trouve que ça reste quand même le meilleur moyen d'apprendre une langue de manière efficace et de rester motivé parce que le cours est tout à fait adapté à l'élève. Donc ça, donner par exemple par exemple, j'ai un élève d'un niveau avancé, et en ce moment, j'aime beaucoup le motiver avec des vidéos. Donc je trouve des vidéos de comiques très intéressantes, et j'essaie de lui demander, voilà, qu'est-ce que tu comprends ici? Quelle est la référence culturelle là, etc. Donc ça, c'est des niveaux avancés, mais ça permet quand même de conserver l'intérêt quand l'élève reste motivé par rapport à ses intérêts personnels. Ça, c'est pour moi une grande motivation. Ensuite, deuxième question. Parlez-nous d'une occasion où vous avez été particulièrement fier d'un ou plusieurs de vos élèves J'ai pas mis mes lunettes. Et des progrès qu'ils ont pu faire grâce à votre enseignement. Donc moi, je suis très motivée. Je suis très fière et motivée de mes élèves parce que ce sont des élèves qui prennent des cours particuliers, donc 1 heure, voire plus avec moi par semaine depuis des années. Donc ça, pour moi, c'est une très grande fierté de voir leur évolution. Voir un élève, ou même des élèves, des personnes qui me suivent sur Instagram avec des gentils commentaires, etc. Pour moi, c'est aussi une fierté de me dire, waouh, il y a quand même des gens qui sont passionnés par le français et qui continuent de s'instruire et d'apprendre. Ça, c'est une très grande fierté pour moi. Une occasion en particulier, waouh, j'ai plusieurs, j'ai une élève, par exemple, qui est prof des écoles, donc qui travaille en maternelle, en primaire, et elle est institutrice, et elle veut avoir un excellent français. Elle a déjà un bon niveau, et cette élève est si motivée pour ses élèves qu'elle continue et continue de prendre des cours avec moi. Et parfois, c'est pas facile, parfois c'est décourageant, parce que le français n'est pas une langue facile, et je suis très fière d'elle parce que malgré ça, elle va continuer. Elle a un enfant de 3 ans. Elle rentre le soir de l'école. Elle est super fatiguée, mais elle va se connecter avec moi. Et ça, pour moi, c'est une très grande fierté. Une autre fierté, j'ai un élève qui a commencé niveau A0, c'est-à-dire débutant, débutant, et qui prend des cours avec moi plusieurs heures par semaine. Moi, je suis très, très fière de cet élève. Et là, il a un niveau avancé. Il habite en France. Et il s'expose au français, au vrai français, c'est-à-dire pas le français tout le temps, pas le français de l'école. Et il s'expose, et c'est pas forcément facile tous les jours. Il s'expose donc avec, il va prendre un café avec des Français. Il cherche des groupes meet-up. Il va faire des randonnées, etc. Donc ça, c'est un élève dont je suis très fière. Parce que c'est un élève qui a commencé donc de niveau débutant et le chemin n'a pas été facile et le chemin reste encore difficile, mais il continue de s'accrocher et ça pour moi c'est une très grande fierté. Ensuite, troisième question, la même personne, comment donnez-vous généralement un feedback, donc un retour positif à vos élèves afin de les inspirer et de les motiver à faire encore plus? Donc déjà pour moi, un feedback positif. J'essaye le plus que possible de donner des retours positifs en français. Très bien, tu as bien compris, bravo, félicitations. Ça, c'est super important. Même si ça a l'air un petit peu naïf, avoir ça pendant le cours, écouter ça de son prof, c'est important. Donc, je vais pas le dire toutes les 2 secondes non plus, mais ça, c'est déjà des feedbacks, des retours positifs, généralement, donc retour à l'oral. Afin de les inspirer, j'essaie toujours, 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 toujours pour les inspirer, de trouver des sujets de conversation qui les intéressent et de donner des devoirs si l'élève est disponible, de donner des devoirs qui les intéressent aussi. Un article, si l'élève aime beaucoup la grammaire, donc envoyer des exercices de grammaire. Donc ça, c'est super, super important. Voici pour cette première partie d'épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je répondrai à la deuxième partie, au reste des questions au prochain épisode. À très bientôt sur Eh oui!